Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc aujourd'hui, eh bien, oui, aujourd'hui, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne peuvent pas supporter, mais pour ceux qui veulent rire avec nous, eh bien, soyez là pour la chronique de Jean-Sébastien Laliberté, Moment Schadenfreude.
Oh, de mieux en mieux.
De mieux en mieux, hein. Ah, je suis trop bonne, je vais aller en Allemagne pour dire que ce mot-là.
J'espère que c'est quand même une blague parce qu'il y a tellement de belles choses à faire, à goûter en Allemagne et à voir.
Ah oui. J'en connais un, s'il nous écoute, il me dirait, je vais t'apprendre beaucoup d'autres mots. C'est pas Mathieu. Bon, alors, ça porte sur certains points des récipiendaires des prix Darwin. Donc, comme nous avons avec nous en studio Emmanuel Lauzon, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Qui est écrivain, enfin qui est plein d'autres choses aussi. Mais il va nous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et on va le recevoir aussi pour son livre audio pour les enfants, Pouha.
Et voilà.
C'est ça?
C'est exactement ça.
T'as vu,
ça.
Moi aussi, je prononce bien. Je peux aller où? Du côté des poux, du côté de l'Allemagne.
Il y a sûrement des poux en Allemagne.
Prochaine étape, par lettre, le français. On va peut-être réussir à faire de quoi.
On va voir si on y arrive. Bon, alors, pour commencer, on part en musique avec Thomas Jensen qui nous chante Les animaux. Et surtout, surtout... Il faut que tu saches, Emmanuel, que tu n'as jamais entendu la chronique de Jean-Sébastien. Lâche-toi. Si tu as envie de lui dire quelque chose, même si c'est pas très gentil, vas-y.
Eh bien, je vais me gêner.
Allez,
j'ai
musique.
J'ai un petit chien, il s'appelle Reviens. J'ai un petit chat, il s'appelle Parpa. J'ai un koala, il s'appelle Reste avec moi. J'ai un caméléon, je l'appelle par ton nom. J'ai un bonobo, je l'appelle comme ton numéro. J'ai un crocodile, je l'appelle comme ton mobile. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une souris, elle s'appelle, je t'en supplie. Et un épagneul, il s'appelle, me laisse pas seul. J'ai un lapin, il s'appelle, j'y comprends rien. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une gazelle, elle s'appelle, faut pas que je t'appelle. Et un perroquet qui me le répète sans arrêt. J'ai un éléphanto, il s'appelle Faux, que j'arrête avec les animaux.
Et voilà donc Thomas Jensen qui nous chantait les animaux. C'est ce qui me fait un petit peu peur, Emmanuel, avant que commence sa chronique, Jean-Sébastien. Il nous met la chanson Les animaux, j'espère que... J'espère qu'il n'en parle pas dans sa chronique. Vas-y, on t'écoute. Ben, là, c'est pour te casser dès le départ, pour mettre la pression.
On va mettre la table en rappelant tout de suite ce que sont les moments Schadenfreude avec ce beau mot allemand qui signifie la joie malsaine, donc rire du malheur des autres et les malheurs qui mènent à la mort la plupart du temps pour être un récipiendaire des prix Darwin qui sont soulignés depuis le début des années 90. On rappelle ces cinq critères-là. Il faut être en incapacité de se reproduire. La plupart du temps, ça veut dire en être mort. Donc, on ne peut pas se reproduire une fois qu'on est mort, à moins que... Non, je pense pas que la médecine soit rendue là.
Mais quelqu'un qui est infertile peut quand même...
Exactement. Si on est castré par l'événement, bien, on peut gagner le prix. La personne doit avoir un jugement étonnamment stupide. Donc, c'est pas juste un accident bête. Faut que ça soit mais vraiment, vraiment, vraiment inconscient comme décision. Il faut être la seule victime de sa grossière incompétence, donc il ne faut pas faire des victimes collatérales, parce que là, on change de registre totalement. Il faut être adulte, il faut être, je rajouterai un sixième point, humain. Je ne pense pas que les animaux puissent en recevoir. Et l'histoire doit être vraie. Et puisqu'il était question des animaux, commençons tout de suite avec nos amis, les animaux. Certains animaux ne sont pas faits pour s'entendre. Par exemple, quand on ajoute un nouveau chat dans une maison où il y en a déjà un, eh bien, parfois, il peut y avoir des réactions fortes.
C'est vrai.
La même chose est possible ailleurs dans le règne animal. Certains poissons vont devenir territoriaux et attaquer d'autres poissons. C'est le cas notamment des bêtas. Moi, je me souviens, en cinquième année, on avait un aquarium dans la classe. On avait deux bêtas, deux poissons qu'on peut dire carnivores, des poissons battling fish, quoi. Bref, des bêtas. Je vais m'en tenir avec le mot que je sais. Et je me souviens qu'un beau matin, on est arrivé et il n'en restait plus qu'un et demi. Une chicane
horreur
pendant la nuit. Et c'est peut-être ce qui est arrivé chez l'ami de Michael, un jeune homme de 23 ans d'Ohio, en 98, qui assistait au nettoyage de l'aquarium, alors que son ami se plaignait qu'un des poissons était devenu nuisible et s'en prenait aux autres poissons. Donc, Michael fait son brave et se propose pour faire disparaître le poisson. Et un poisson, il semblerait que c'est bon à manger, et que certaines personnes aiment ça en manger parce que c'est bon pour la santé. Donc, faisant d'une pierre deux coups, Michael prend le petit poisson de 5 pouces et tente de l'avaler. Le poisson, toujours vivant, ne l'entendait pas ainsi. Il a attaqué la gorge de l'homme, l'empêchant de respirer. L'appel au 911 des amis disait que l'homme avait mangé un poisson et avait de la difficulté à respirer. Ce qu'il faut leur donner n'est pas tout à fait faux. À l'arrivée des ambulanciers, le poisson était encore dans le fond de la bouche de l'homme et le poisson, lui non plus, n'a pas survécu.
C'est comme une façon naturelle de faire une trachéotomie.
Oui, mais il n'en avait pas besoin à ce moment-ci.
Ouais, c'est mieux qu'on n'a pas besoin de
l'avoir. Moi, je suis toujours épaté en me disant, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête pour agir aussi stupidement? Mais bon.
Peut-être qu'il manquait d'oméga 3, peut-être qu'il y avait des suppléments qui lui manquaient, qu'il a voulu aller chercher dans le poisson. Ensuite, je vous amène à Singapour, au Shanghai World Animal Park, donc toujours en lien avec les animaux. Dans le cadre d'une sortie scolaire, 13 autobus font le parcours automobile durant lequel vous restez assis bien enfermé dans votre véhicule alors que les animaux autour de vous sont en liberté.
Oui.
On a ce genre d'activité ici même au Québec et probablement à plusieurs autres endroits sur la planète. Donc, le convoi d'autobus fait le parcours et, malheur, un des bus tombe en panne dans la zone des tigres. On peut imaginer les cris des enfants. Il en faut généralement assez peu pour que ça crie dans un autobus scolaire. Donc, la consigne est pourtant claire. C'est interdit de sortir du véhicule encore plus dans l'enclos des tigres. Et on peut penser que, bon, peut-être si on est à la toute fin de la journée, la dernière voiture qui fait le parcours dans une décapotable, le toit baissé, avec un panier de pique-nique plein de viande rouge bien saignante, peut-être qu'on peut se sentir en danger, mais un des 13 autobus scolaires dans un voyage organisé, les chances que les passagers, des enfants, soient laissés à eux-mêmes sont quand même assez minces. D'autant plus quand on sait qu'un autobus scolaire, c'est parmi les véhicules les plus sécuritaires sur les routes, c'est fait pour protéger des enfants. Alors, le conducteur, Tsu, âgé de 41 ans, soit qu'il n'a pas réalisé cette évidence, ou parce qu'il voulait agir en héros, ou encore parce qu'il était excédé d'entendre les enfants crier, décide de sortir du véhicule et commence à tenter de réparer le moteur. Et les cris des enfants sont rapidement devenus des hurlements lorsqu'ils ont vu les tigres s'en prendre au chauffeur.
Oh, quelle horreur!
Les secours sont intervenus quand même assez rapidement, donc aucun enfant n'a été blessé physiquement par l'accident. On ne parlera pas du choc post-traumatique qu'ils ont sans doute vécu. Mais donc, si vous visitez un zoo, de grâce, écoutez les consignes.
Ben, oui. Puis, non, mais attends. Sortir. Alors, moi, j'ai cru que c'était pour protéger les enfants. Encore que je ne vois pas que son petit corps aurait fait par rapport à la structure d'un autobus. Mais là, aller réparer l'autobus...
Réparer un moteur de... Je ne suis absolument pas mécanicien, mais réparer un moteur de véhicule, c'est rarement une affaire de 30 secondes. Le temps d'ouvrir le capot, de se placer les mains, de faire ça, donc c'était quand même un projet de plusieurs minutes, j'imagine.
Ben, moi, j'aurais été parent, j'aurais eu peur qu'il y ait un chauffeur comme ça qui conduise mon enfant. Ça craint. Alors, troisième.
Est-ce que tu as eu vent de cette spectatrice Arlette pendant le Tour de France récemment qui a causé un accident assez spectaculaire? Elle brandissait une pancarte devant la caméra parce que tout le monde veut passer à la télé ces jours-ci. Et la pancarte empiétait de beaucoup sur la route, donc sur la piste, et sans jamais regarder la course qui arrivait, le peloton qui arrivait. Elle a sa grande pancarte et elle veut se faire capter par la caméra, et les cyclistes qui arrivent à toute la largeur de la route ne peuvent pas l'éviter. Donc un cycliste fonce directement dans la pancarte, la fait tournoyer. Lui tombe même en dessous des roues des personnes qui le suivent, et ensuite des dizaines et des dizaines de cyclistes tombent par terre. Donc ça a causé quand même un accident assez bête et spectaculaire. Cette dame a heureusement été rattrapée par la justice et elle devra faire face à ses actions au courant de l'automne. Mais je trouve que c'est un exemple qui montre quand même assez bien comment on peut ne pas être conscient de son environnement. Oui. Et donc, toujours en France, à Nîmes, en mai 2000, ça c'était juste le préambule.
À Nîmes?
À Nîmes?
Chez ma famille, qu'est-ce qui s'est passé?
En mai 2000, une photographe de 68 ans de Berlin voulait croquer la photo des taureaux qui courent dans la ville lors de l'événement. Et elle traverse donc la barrière de sécurité métallique. Déjà là, ça donne un indice du risque qui est encouru. C'est pas juste des cônes oranges, clôture métallique. Et elle marche au milieu de la rue, l'œil derrière la caméra, afin de trouver le meilleur angle. Elle se fait d'abord renverser par un cheval, sous les yeux incrédules du cavalier qui courait devant les taureaux, qui ne peut évidemment pas arriver à temps. Et puis, elle termine sa course piétinée par 6 taureaux.
Oh là là.
Tout ça pour une photo. C'est fou à quel point les photos...
Ça doit pas être arrivé une seule fois, ça, dans l'histoire.
Probablement pas. Ben, avec une caméra, peut-être, mais les taureaux, c'est probablement en fait plusieurs victimes au cours de l'existence des rodéos.
Moi, j'ai vu, pour bien connaître cette ville, j'ai vu des gars, souvent, pas très fins, qui décidaient qu'ils allaient braver le taureau parce qu'ils étaient plus forts et puis qu'ils allaient même lui monter sur le dos pendant qu'il courait. Alors, sur ce, on va partir en musique parce que ça va bien, quoi. La bêtise humaine, on y revient dans un instant. On part en musique avec Ariane Brunet qui nous chante « Drive My Car ». Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. And baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. And baby, you can drive my car. And maybe I'll love you. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for to say.
a driver, and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Alors, ben c'est toi que j'attendais. Ben silence, parce que j'attendais la suite. Tu m'as dit, j'ai une anecdote à te raconter. Enfin, une anecdote, oui, à te raconter, qui est en lien avec cette chanson. Comment, c'est une histoire de voiture?
Oui, allons
tu
maintenant.
Vois, ma traduction, elle est bonne quand même. Hein. Ma prononciation n'est pas terrible, mais ma traduction est bien meilleure.
J'en suis bouche bée. Allons maintenant à Chicago, aux États-Unis. La mère d'un homme que nous appellerons Jim avait un permis de conduire qui allait bientôt expirer. Et comme c'est le cas ailleurs, donc ici même au Québec, à partir d'un certain âge, il faut repasser un examen de conduite pour conserver le droit de conduire. Et dans le cas de cette dame, c'était presque de nature publique qu'elle était un danger sur la route. Et au lieu d'argumenter avec sa mère pour lui faire entendre raison, Jim a choisi d'attendre que l'évaluateur, lui, du test de conduite, lui apprenne la nouvelle qu'elle n'aura plus le droit de conduire. Donc le jour J, Jim amène sa mère à l'examen et lors de leur tour, bon, il l'aide à prendre place dans le véhicule, il va se placer près du mur de l'édifice pour les voir partir. L'évaluateur embarque dans la voiture, le moteur démarre, la mère appuie sur le champignon, mais au lieu d'aller de l'avant, vers la rue, elle recule dans l'édifice. L'évaluateur a le bras cassé. La dame, évidemment, n'a pas eu de renouvellement de permis de conduire. Et Jim avait étrangement eu le réflexe de se placer près du mur de l'édifice, comme je le disais, pour voir la voiture partir. Mais tout en sachant que la personne derrière le volant était dangereuse, il est allé se placer juste derrière la voiture. Et en temps normal, on conseille déjà de ne pas se placer derrière une voiture, même si la personne conduit bien. Je pourrais compter des histoires personnelles avec ça, mais donc Jim, avec son manque de jugement, s'est retrouvé en piteux état et n'a pas survécu à l'examen, malheureusement.
Oh, quelle horreur! Ça, c'est terrible!
Mais vraiment?
C'est terrible pour la mère parce qu'elle... Ça.
Ah oui!
Bah oui!
C'est ce que j'allais dire, elle vit avec le fait qu'elle a tué son fils. Non, mais attends, pour une histoire de conduite, mais prends un taxi, fais-toi conduire, appelle des amis.
L'orgueil!
Je sais pas, j'ai comme l'impression, quand il y a des horreurs comme ça qui sont dites et qui ont vraiment existé, parce que tu ne fais que raconter des histoires vraies, qu'en fait, c'est comme si on prend pas le temps de réfléchir. Tu sais, tu peux pas faire comme ça, pause, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Non, hop, vas-y. Non, mais ça...
Non, parfois on est inconscient. Et souvent, avec le recul, quand on vieillit, on repense à certaines choses qu'on a fait quand on était plus jeune. Et on se dit, ben voyons donc que j'ai fait ça, comme j'ai été chanceux qu'il n'arrive rien. Ou des fois, on est totalement inconscient ou on se sent invulnérable, peu importe.
Mais on grandit parfois. Bah
Des bêtises.
Ça s'agit.
De bêtises de voiture dont tu te sors. Dont tu sors. Vivant où tout va bien parce que ça n'implique que toi. Moi, j'en ai une. Bon, j'ai un peu honte, mais je vais quand même la raconter. En partant au ski, j'étais tellement pressée un matin, à 5h du matin, je prends ma voiture et j'avais un garage qui, les portes soulevaient, tu sais, automatiquement, là, comme ça. Et j'étais pressée. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai raclé tout le haut de ma voiture. C'était pas grave, ça n'impliquait que moi et la voiture et la cassure dessus. Mais pour dire à quel point on peut être stupide...
Oh, je ne dirais pas si c'est mon père ou ma mère parce que ça s'est passé avant mon temps, mais je sais que dans ma famille, il s'est passé un événement très semblable et le véhicule est allé contre le mur au lieu de sortir en faisant peu de victimes, sinon la voiture elle-même. Et toujours avec le fait de ne pas se mettre derrière la voiture, j'ai repensé à un épisode qui s'est passé dans ma vie, alors que ma petite fille, qui devait avoir 3 ans à l'époque, revient de chez ses grands-parents, débarque de la voiture, et avant que le grand-père ne la voie, va se placer derrière l'auto. Ouais. Et une chance qu'il y avait une caméra de recul. J'étais dans la fenêtre, j'étais nu-pied en pyjama, c'était l'hiver, et elle était derrière le véhicule. Et lui s'apprêtait à reculer. Le cœur m'a arrêté, j'ai pas dormi pendant 2 jours et il ne s'est rien passé par chance, mais vraiment là c'est...
Ça fait vraiment grave, hein, ce genre de choses où moi c'était juste stupide et ça n'a impliqué que moi-même, hein. Mais bon. Et la voiture tenait quand même. Elle n'était pas complète. Elle était juste cabossée sur le dessus. Je suis passé un petit peu vite.
Je vais changer le registre un peu. Oui. On va aller dans quelque chose qui est quand même actuel, qui est lourd, qui est pas joyeux, parce que, avouons-le, que le reste des choses nous ont fait rire à gorge déployée. C'était léger et pas grave du tout. Sarcasme. Une tentative de féminicide. Voici une histoire qui aurait pu être encore plus grave. C'est un sujet qui est quand même lourd et qui est malheureusement encore trop actuel. On est à Buenos Aires en 98, en février. Dispute conjugale qui éclate entre un homme et une femme. L'homme de 25 ans finit par prendre sa femme de 20 ans et la lance par le balcon du 8e étage. Mais ce n'était pas son heure. Par chance, elle se retrouve suspendue dans les fils téléphoniques. L'homme saute immédiatement du balcon vers sa femme. On peut juste spéculer, est-ce qu'il voulait compléter son meurtre? Est-ce qu'il voulait tenter de la sauver par culpabilité? Peu importe, lui a totalement raté les câbles et s'est écrasé sur le sol, directement vers sa mort. La dame, elle, a réussi à sauter jusqu'à un balcon et a eu la vie sauve. Mais vraiment, ça, c'est une histoire... Grâce à cette tournure-là, on peut légèrement en rire, quoique, mais oui,
J'ai quand même envie d'en rire, mais c'est tellement, tellement stupide. Ça n'a pas de bon sens.
Peut-être qu'il voulait faire une tentative de suicide aussi, on ne sait jamais, après avoir commis un geste comme ça. Mais dans son cas, ça a fonctionné.
Il faut déjà... Si tu veux la sauver, appelle les secours, fais quelque chose, va chez le voisin, enfin, je sais pas moi. Et si tu veux la tuer encore, attends qu'elle soit revenue. mais sauter sans... Voilà. J'ai pas de... C'est toujours... Tes chroniques sont toujours pour moi des gros points d'interrogation. Pourquoi on agit comme ça?
Je vais terminer avec une histoire qui est vraiment plus légère et que c'est une mention honorable. Ce n'est pas un véritable prix Darwin parce qu'il manque un critère à cette personne pour être récipiendaire, parce qu'elle était toujours vivante et en santé lorsque c'est arrivé.
Ah d'accord, bon bah alors.
Aéroport Séville en Espagne en août 1999. Un pickpocket français de profession a mal choisi sa victime. La foule ne décourage généralement pas ce genre de voleur et peut-être y voit-il même une façon de se cacher dans la foule. Oui. Et donc il cible un groupe de jeunes hommes et il s'étire pour prendre le sac de l'un d'eux. Mais il ne reconnaît pas Larry Wade, le numéro 3 mondial au 100 mètres, est pour l'équipe athlétique américaine. À côté de lui, Maurice Green, sprinteur qui, dans les jours suivants, sera le premier athlète à remporter le 100 mètres et le 200 mètres aux Jeux de Séville. Green qui remportera également deux médailles d'or aux Olympiques l'année suivante, devançant le Canadien Bruni Surin. Maurice Green qui, pendant 6 ans, sera le détenteur du record mondial pour le 100 mètres à 9,79 secondes, battant le précédent record du Canadien Donovan Bailey et record qui est actuellement détenu depuis 2009 par Usain Bolt. Donc, de retour à notre pickpocket qui réussit à prendre le sac de Wade et se sauve. Quelques secondes plus tard, les deux hommes se mettent à sa poursuite et le rattrapent assez facilement. L'homme tente de se défendre en disant qu'il y a eu erreur sur la personne, qu'il n'est qu'un touriste, mais malheureusement pour lui, le tout a été capté sur caméra par une équipe de télévision espagnole qui interviewait à ce moment-là Maurice Green quand le crime a été commis.
Oh, mon...
Alors, quand même, une mention honorable.
Ben oui, c'est d'ailleurs le lien que tu as très bien fait avec la chanson qui suit, puisqu'on va écouter Jacques Dutronc qui nous chante « Gentleman Cambrioleur ».
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de
Et voilà, donc on vient d'entendre Jacques Dutronc, bien sûr, qui nous chantait Gentleman Cambrioleur. Puis maintenant, on va attaquer la prochaine demi-heure. Et la prochaine demi-heure, heureusement, c'est avec toi, Emmanuel. Donc nous allons parler livres audio, nous allons parler livres tout simplement, et puis partir avec les enfants. Et le problème des enfants, c'est quand même beaucoup plus facile à entendre que les nôtres, que les problèmes des adultes qu'on vient d'entendre jusqu'à maintenant. Donc, restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça.
Écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Je sais que la vie, c'est ma
on vient d'entendre Claude Pelgag qui nous chantait « J'aurai les cheveux longs ». Et maintenant, roulement de tambour, du-du-du-du-du, Emmanuel Lauzon, c'est à toi.
Hey, moi qui ai les cheveux courts.
Oui, c'est vrai. Je l'affirme, je le confirme, je le vois. Alors, on démarre avec ton livre audio.
Ben, pour... Ça fait un beau lien avec les cheveux aussi.
Pour les enfants, ben oui.
Ouais.
Pou-a.
Pou-a.
Qu'est-ce que c'est l'histoire?
En fait, ben déjà le titre, c'est
explique.
Un jeu de mots. Pou-a, bon, j'ai mis un trait d'union dedans, mais
parce
si on
qu'on
enlève...
Fait pois.
Oui, ben et voilà, c'est pour l'interjection qui exprime le dégoût, hein, pois.
Ouais.
Et le jeu de mots avec ça, c'est que le dégoût, ben, il provient du type de personnages qui sont dans mon livre. Ce sont des poux. Des poux qui vivent sur les têtes.
La galère, hein, quand t'as des enfants qui ont des poux, je peux te dire galère.
Et
tous les parents vont me suivre là-dessus.
Ben, on voulait, en fait, je voulais dédramatiser un peu cette expérience-là.
Oui.
Et donc, ben, à la base, Poua, c'est un livre papier. Il y a deux tomes. Ça a été publié en 2012, le tome 1, et 2013, le tome 2. Pour l'histoire, là, que ce soit l'histoire écrite ou audio, c'est tout simplement, en fait. C'est simple, mais c'est pas si simple. Mais moi, j'aime beaucoup l'astrophysique, l'astronomie. J'avais envie de faire un parallèle avec les planètes, l'infiniment grand versus l'infiniment petit.
Ah, tu souhaites ça.
Et donc, c'est l'histoire de Jax. C'est le personnage principal, c'est le héros de l'histoire qui est né avec une malformation antennaire. Et donc, plutôt que d'avoir deux antennes, une un peu de chaque côté du front ou de la tête, il n'y en a qu'une seule. Et bien, il fait rire de lui à cause de ça. Il est victime d'intimidation à l'école. Et donc, l'histoire débute, et je vais m'arrêter là dans l'histoire pour garder la suite et les punchs, mais disons que j'arrive jusqu'à l'élément déclencheur de l'histoire, c'est qu'il se fait intimider par Helmut, qui est l'espèce de gros
poux.
Oui, de gros poux, mais tu sais, pour exprimer...
Le
bully, là, ouais. Celui qui intimide les autres. Et un jour, il y a une tempête tropicale qui se lève sur la tête de la petite fille sur laquelle ils vivent. Sauf que la tempête tropicale, en fait, c'est le sèche-cheveux, c'est le séchoir à cheveux. Et donc, tout le monde doit essayer, mais c'est quelque chose qui fait partie de leur mode de vie. Tout le monde, quand ça arrive, ça, doit s'accrocher à un cheveu. Mais là, pour une raison que je vais laisser encore le lecteur ou la lectrice le découvrir, mais ils réussissent pas les deux à s'accrocher. Et donc, comble du malheur, l'intimidé et l'intimidateur se retrouvent soufflés dans l'infiniment grand qui est le monde des humains. Et donc, ils doivent retrouver leur tête natale. Donc, voici la prémisse.
Jolie histoire. Tiens. C'est pour les enfants de quel âge à quel âge?
Eh ben,
pour tous, un petit peu, d'ailleurs.
Oui, ben, c'est comme ça que je l'ai pensé, en fait. C'est sûr que la version papier, pour des raisons de lecture, c'est sûr qu'on va dire à partir de 7 ans, 8 ans. C'est sûr que la version audio, on peut ouvrir ça un peu plus large. Je dirais 6 ans, parce qu'ils n'ont pas besoin de lire. Ils n'ont pas besoin de savoir lire. Donc, je dirais peut-être 6 ans, peut-être même 5 ans. Moi, j'ai mon fils de 5 ans qui l'a écouté, qui a participé. D'ailleurs, je pourrais y revenir tantôt. Mais je pense qu'on peut étirer ça un peu. Puis après, pour être très précis, si je dis 6, 10, 11, 12 ans pour le livre audio. Mais après, la façon que j'ai construit l'histoire, c'est tout à fait vrai dans la version papier, mais je l'ai vraiment exploité encore plus dans le livre audio, c'est que j'ai mis beaucoup de deuxième degré, des blagues que les enfants... T'sais, pour eux, c'est juste comme la continuité de l'histoire dans les jeux de mots ou dans des sons, mais qui vont
qui
plaire aux parents
aussi. Qui peuvent
expliquer
d'autres choses aux parents aussi, oui.
C'est
tout
ça,
à
toujours
fait.
Un deuxième sens. Ben, pas toujours, mais souvent. Parce que moi, j'avais envie que les parents aient envie aussi d'avoir du plaisir en l'écoutant avec leurs enfants. Donc, puis ça, je me suis gâté un peu plus dans la version audio.
Alors, parle-nous un petit peu plus de la version audio. Comment ça s'est passé?
Eh bien, ça a commencé... En pleine pandémie, en fait, il y a un peu plus qu'un an, j'ai fait une demande au Conseil des arts et des lettres du Canada. Et c'était une subvention spéciale style COVID, un peu pour inciter, stimuler les artistes à se tourner un peu vers le numérique, à essayer de développer des façons d'utiliser leur art, en fait, de faire leur art, mais sur des plateformes numériques et tout ça. Et donc, moi, ben, tout de suite, c'est... Dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, ben un livre audio, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. » Et donc, j'ai appliqué et j'ai eu la subvention. Ce qui m'a permis de me donner un cachet, évidemment, mais de m'équiper, de m'acheter un peu de matériel pour enregistrer
chez
ça
toi.
Chez moi. Ça a commencé comme ça et c'était, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'était le début d'une nouvelle passion pour moi, là, en plus de l'écriture. Et je fais une petite confession, je suis devenu un petit peu... Ben là, j'exagère, là, mais... maladif dans le sens où le fait d'avoir un peu d'équipement, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à regarder des tutoriels et à m'acheter de plus en plus d'équipements, des panneaux acoustiques, des meilleurs micros. Mais au départ, j'avais quand même du bon équipement, mais j'ai produit ça poil, l'adaptation dans mon bureau que j'avais adapté pour ça. Et... les deux autres comédiens, parce que moi je fais la narration, je joue un des trois personnages principaux et j'ai engagé deux amis à moi qui sont Chloé Varin, qui est une autrice, une comédienne, qui fait un peu moins de jeux maintenant, là, mais elle se concentre plus sur sa carrière d'autrice, et Ghislain Tachereau, qui est bien connu pour avoir été membre du fameux groupe d'humour Les Bleus Poudres, donc lui il fait la voix de Jax, le personnage principal. Et donc, comme maintenant, c'est relativement facile, mon amie Chloé, elle n'avait pas d'équipement, donc je lui ai prêté mon équipement. Et Ghislain, lui, fait déjà des voix. Il a déjà un petit studio maison. Donc, tout s'est fait après en transmission de fichiers MP3. Puis après, j'ai tout travaillé le montage là, dans mon bureau.
C'est cool. T'as dû te faire un plaisir fou à faire ça.
Oui, beaucoup plus que ce que je m'aurais imaginé. Mais c'était aussi beaucoup plus de travail que ce que j'avais pensé. Ouais. Dans un projet comme ça, honnêtement, on compte plus les heures. Là. C'était le jeu. Je fais des présentations devant des gens, mais je peux pas. Je suis pas un comédien. Fait qu'il a fallu que je travaille ça un peu pour être. C'est sûr que j'ai eu plus de prises, je dirais, que les deux autres. Et je me suis repris plus souvent parce que c'est pas quelque chose que j'ai pas été formé pour ça.
Oh, mais ils t'ont aidé là-dedans?
Plus ou moins. C'est-à-dire, les autres comédiens, non, eux, ils l'ont fait. Moi, je me suis... Je me suis, disons, auto-formé. C'est rien de... Mais honnêtement, je suis quand même arrivé avec peut-être 3-4 prises de plus par réplique que eux, mais j'en suis arrivé avec un résultat où j'étais très, très satisfait. Là. Donc, la narration plus un personnage. Puis après ça, c'était tout le montage, tout le mastering, les effets spéciaux, dans le son. Et ça, je dois avouer que rendu au montage, c'était mon petit... C'était mon dessert, en fait. C'était vraiment de voir le texte, mais d'y rajouter de la musique, des effets sonores. Là, je me suis fait vraiment un malin plaisir. Puis c'est là que je me suis découvert une nouvelle passion, là.
C'est cool, hein? Tu vois, comme quoi ça part d'un livre, finalement, quelque part, la pandémie t'a rendu service?
Absolument. C'est plate à dire comme ça, mais oui, fois, il faut essayer de trouver du positif.
Non, mais il y a beaucoup... Je dois reconnaître que dans ces moments-là, il y a eu beaucoup d'artistes qui, en manque d'eux, ont fait preuve de beaucoup de créativité, justement, et même chez les autres, d'ailleurs. Et bref, ça se voit surtout chez les artistes, puisque c'est eux qu'on reçoit. C'est assez formidable de voir la manière dont ils ont su se relever de ça. Je trouve ça fabuleux.
Ça fait partie de... En tout cas, pour moi, c'est une démarche. Dès qu'il arrive quelque chose de difficile, en général, j'essaie de pas me laisser abattre par ça puis de retravailler. Puis bon, parce que sinon, on n'en garde que des souvenirs négatifs.
C'est parfait. On va faire une pause musicale et puis après, on va parler de tes autres livres, de tout ce que tu fais d'autre.
Super.
En peu de temps, mais on va essayer. Donc, on écoute... On dit Lily Cao.
On dit Lily Cao.
Lily Cao qui nous chante La Brèche.
Ouvre-moi ta tête que je plonge dedans. Même si c'est la tempête, les courants sont bons. Laisse-moi naviguer dans ton océan. Chercher tous les trésors qui se cachent au fond. Bien assis sur la glace, j'attends qu'elle fonde. Cette vieille carapace, c'est le temps qu'elle craque. Ouvre-moi ton cœur que je pousse dedans. Un souffle de bonheur, une étincelle de chaleur. La 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 la.
jouons avec les casse-têtes, bâtissons un monde où les violents font la fête et non les tourments. Ouvre-moi ton cœur, la 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 la. Ouvre-moi ton cœur, la 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 la. Ouvre-moi ton cœur, que je pousse dedans, que je pousse dedans.
Alors Emmanuel Lauzon est toujours avec nous et il va nous parler de ses passions, parce que des passions, il en a tout un tas. Alors on va peut-être pas pouvoir parler de tout.
Sûrement pas.
Mais on va entamer. Alors, on commence par quoi?
Mon Dieu, bien évidemment l'écriture, oui. Parce que c'est à la base, j'ai parlé beaucoup de livres audio puis de production tantôt, mais à la base, même ce qui m'a amené à ça, c'est l'écriture elle-même. Donc j'ai écrit plusieurs livres de tous les genres, pour tous les âges, mais... Si j'avais à me concentrer, je dirais quelque chose sur quoi j'ai travaillé beaucoup et je continue, c'est dans une collection aux éditions de Mortagne, une collection qui est très, très, très populaire auprès des adolescents, jeunes adultes, de plus en plus les adultes aussi, parce que ça fait 10 ans que la collection existe, donc ça s'appelle Tabou. Tabou, c'est comme le nom le dit, en fait, c'est qu'on aborde des sujets tabous qui peuvent s'adresser à n'importe qui en réalité. C'est juste, tu sais, quand on dit que c'est des romans pour les adolescents, c'est parce que les personnages principaux sont souvent en âge d'adolescence ou jeunes adultes.
Je vais te dire une chose. En tant qu'adulte, c'est peut-être plus facile d'entendre des choses qu'on nous dit qui passent à travers les enfants, parce que ça met de la distance et
ouais.
C'est moins nous qui sommes concernés.
Ben, oui,
donc ça peut aussi aider.
Ben, je reçois beaucoup de commentaires, de messages d'adultes qui les ont lus malgré tout puis qui ont bien aimé. Fait que, mais c'est sûr que nous, on vise un lectorat adolescent, mais... on essaie de ratisser le plus large possible. Donc, oui. Là, j'en ai 4 qui ont été publiés. J'ai commencé à travailler sur un 5e, mais je ne suis pas tout seul dans cette collection-là. C'est un collectif. Donc, on est rendu à... Je ne sais plus le nombre exact, mais on doit être pas loin de la 60e publication. Donc, ça fait 11 ans même que la collection existe. Donc, c'est très, très ancré, dans la culture littéraire.
C'est quoi? Donne-moi des exemples de ce que tu écris.
Ouais, mon premier, en fait, c'est sans être une autobiographie, parce que je fais pas ça de l'autobiographie, je fais que de la fiction, mais c'est le livre qui est le plus proche de moi, le sujet, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Chaque roman est vraiment tagué sur un sujet. Et le premier, c'est sur le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce que j'ai... évidemment, je le répète, ce n'est pas mon histoire que je raconte, mais c'est sûr que c'était facile pour moi de rentrer dans cette collection-là, oui. Dans ce style-là, en ayant facilement puisé dans des souvenirs ou des ressentis. Et c'est toujours... C'est le nom, tu sais, la collection, on dit que on va aborder des sujets tabous, mais on les aborde justement sans tabou. Fait que ça peut être assez confrontant comme style pour certaines personnes si on est plutôt du type conservateur ou conservatrice. Parce que dans les dialogues, des fois, ben, on ne fait pas exprès de mettre des jurons partout, mais si le personnage et la situation le justifient, on ne va pas s'empêcher. T'sais, ça peut être très cru. Fait que j'ai lui sur le TDAH, j'en ai un sur le trouble d'anxiété généralisé, que je n'ai pas. Ça, c'est vraiment un sujet là, qui est autre que j'avais envie de parler. Puis j'en ai deux autres sur la toxicomanie, mais qui abordent des angles différents. Et je ne suis pas toxicomane non plus.
Non, mais après, ça, c'est... Je veux dire, ce qui est bien, c'est de les aborder, puis de savoir comment c'est... Puisque ça fait une dizaine d'années que tu as commencé ça?
La collection existe. Collection, moi, je suis arrivé peut-être à la moitié environ.
Comment ça a été reçu?
Très bien, en fait. Je parle que des miens, parce que je connais pas la réception des autres.
Oui, c'est ça.
je dirais, celui qui a été et qui est toujours le mieux reçu, c'est mon roman sur le TDAH, qui s'intitule « La rage de vivre ». Et lui, il se vend encore très bien. Je sais que dans les écoles, il est beaucoup utilisé aussi par des profs ou même des parents qui veulent subtilement amener les enfants à avoir une... les adolescents ou des adultes à avoir une réflexion sur le sujet, mais pas dans un cadre officiel. Tu sais.
Oui. C'est un roman?
C'est un roman. Ce sont tous des romans, ce sont tous des fictions. Moi, d'un point de vue, là, puis je dis pas ça pour dire qu'il est pas bon, moi, je crois qu'il est... C'est celui qui s'est vendu le mieux d'un point de vue commercial. C'est celui pour lequel j'ai eu le plus de retours.
D'accord.
Mais d'un point de vue strictement littéraire et artistique, ce qui est tout à fait normal puisque c'est mon premier, je trouve pas nécessairement que c'est celui qui... je peux pas le comparer à mon... plus récent, qui s'intitule Addict, comme dans Accro, où je me suis arrangé pour avoir un personnage qui fait du rap, pour pouvoir insérer des figures de style dans sa poésie et tout ça. Donc, au niveau purement littéraire, j'ai pu aborder un sujet qui était assez intense, peut même... Il y a certaines scènes qui sont assez vulgaires, parce qu'on parle d'héroïne là-dedans. Et donc, c'est vraiment un personnage qui tombe dans une déchéance assez incroyable. Donc, les scènes elles-mêmes peuvent être assez confrontantes, mais c'est le roman, grâce à la petite twist que j'ai faite avec le personnage qui fait du rap, bien, ça m'a permis d'amener un aspect plus littéraire en mettant des figures de style et tout ça pour amener ça à un niveau peut-être un peu plus supérieur dans le sens littéraire.
D'accord. Et tu dis que ça s'appelle comment, la série?
La collection s'appelle Tabou.
Tabou,
T-A-B-O-U, comme un tabou. Voilà.
T'en penses quoi, toi, Jean-Sébastien?
De quel aspect en particulier?
Ben, celui de la drogue, tu sais. Puisque t'étais tombé dedans quand t'étais petit.
Oui,
non, je plaisante, mesdames, messieurs, parce que sinon, après, on va le croire, donc ne croyez pas ça. Mais qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là, toi, à ton niveau? Toi qui as des enfants qui sont petits, même voire très petits, comment tu vois ce genre de livre, de lecture de roman, et qui en plus passerait dans des écoles, parce que c'est ton cas, il y a des profs qui...
Des écoles secondaires,
Oui, t'es loin encore de l'école secondaire, mais pas si loin de celle que t'as faite toi, comment tu l'aurais...
Moi je pense que c'est bien, parce qu'il faut en parler, il faut que les jeunes soient exposés à ça, parce que bon, éventuellement, c'est des réalités qu'ils vont rencontrer, puis c'est bien de mettre les mots et de les aider à faire connaissance. Bon, on peut parler de la drogue, mais que ce soit la sexualité, de peu importe, les jeunes vont être confrontés éventuellement à une vie adulte avec tous les éléments qui sont là. Donc, de les intéresser, de leur faire prendre conscience des différentes choses qui nous entourent, c'est...
Oui, je trouve aussi, parce que je trouve qu'ils vieillissent plus vite.
Trop vite. On n'a pas de pouvoir là-dessus.
Non, mais le pouvoir qu'on a, c'est de leur apprendre. Parce que c'est la peur, elle vient de l'ignorance. Donc, c'est de leur apprendre. Plus tu les aides à passer ce cap-là, comme tu le disais si bien, Jean-Sébastien, plus tu les aides, plus c'est facile pour eux de le passer parce qu'ils auront compris quelque chose.
Ça, c'est une difficulté. En même temps, je dis une difficulté, mais je dirais peut-être plus un défi d'aborder ces sujets-là. Moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne parce que, oui, c'est comme dans n'importe quel sujet. Si on parle de suicide avec quelqu'un, il y a pendant longtemps, il y a eu des croyances populaires qui disaient qu'il ne faut pas en parler de ça parce que ça peut donner envie de se suicider. Ce n'est pas totalement faux, mais là où ça devient faux, en fait, c'est que maintenant, on sait très bien qu'en fait, il faut en parler, mais il faut bien en parler. C'est sûr que si dans mon livre, je fais pas de recherche ou je rencontre pas des gens qui ont vécu des trucs comme ça, puis que j'envoie ça un peu dans toutes les directions, là, il peut y avoir un danger. Donc moi, je vais pas dire que je pense à ça toutes les secondes quand je suis en train d'écrire, mais de façon générale, quand je suis dans un processus d'écriture pour ce genre de livre-là, c'est sûr que on a toujours l'impression de marcher un peu sur une ligne qui est assez mince entre, tu sais, par exemple, donner envie aux jeunes de prendre de la drogue ou ne pas leur donner envie, alors que sur le fond, c'est pas mon rôle
du
tout.
Non, c'est juste d'expliquer.
Mais je veux pas non plus, ni un ni l'autre, je veux pas faire de morale, mais je veux pas non plus, envoyer les gens là-dedans. Là. Donc, c'est toujours un équilibre qui est très, très fin.
Moi, c'est on part en musique?
On va partir en musique. Ou sinon on n'aimait pas de chansons.
Une proposition de livre aussi. Si, on va partir en musique, mais c'est le harcèlement. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Bon, ceci dit, on part en musique avec Le Couleur qui nous chante Silenzio.
«
ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, Emmanuel, un petit mot de la fin. Emmanuel Lauzon, mot de la fin.
Ben oui, si jamais il y a des bibliothèques ou des enseignants, enseignantes qui écoutent tous mes livres, même que ce soit Poua, un livre audio, des livres pour enfants ou les livres de la collection Tabou que j'ai parlé tantôt, je fais beaucoup de conférences, des spectacles littéraires.
On peut te trouver sur Facebook?
Ben oui, j'ai une page d'auteur, Emmanuel Lauzon, trait d'union auteur. Ouais. Et je fais partie du programme Culture à l'école aussi, qui subventionne les rencontres comme ça.
Alors écoute, c'est la fin. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté d'avoir été avec nous et pour ta chronique.
Merci à vous pour l'invitation.
Et puis c'était un plaisir Emmanuel, et puis on se retrouve demain. Alors à demain, bye bye.